Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vieille Europe, toujours sur Radio Courtoisie. En cette veille de fête du travail et après un an de pouvoir de la gauche, nous allons parler des travailleurs, ceux qui sont en bas de l'échelle, les ouvriers, les classes populaires, ceux qui ont une époque faisait la fierté de toute la classe politique, ceux qui ont construit cette France du XXe siècle et qui aujourd'hui est souvent ignorée ou pire, qui ferait peur par leur vote extrême. Dans notre deuxième partie, avec Philippe Christel, bonsoir Philippe.
Bonsoir Patrick.
Nous verrons bien sûr l'actualité en Europe avec vous, mais particulièrement l'avenir de notre armée suite à la présentation du nouveau livre blanc, qui pour certains est déjà considéré comme calamiteux et atlantiste, et pour d'autres tout simplement la fin de notre armée. Donc pour notre première partie sur les classes populaires, les classes ouvrières, nous aurons comme fil rouge l'excellent dossier de la revue Éléments, qui est en kiosque depuis une semaine, les oubliés, les classes populaires, nouvelles classes dangereuses. Alors autour de moi, donc, son rédacteur en chef, Pascal Essérick. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et Mathilde Gibelin. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Et nous aurons par téléphone tout à l'heure Laurent Cantamessi qui nous fera qui nous donnera la vraie définition et l'origine du beauf.
Oui, l'histoire même.
L'histoire du beauf.
La généalogie
du beauf. Et David Lépé, dans un deuxième temps, qui nous parlera du cinéma anglais, qui a un peu mieux traité sa classe ouvrière et populaire que les Français. Alors Pascal Essérick, avant de savoir si les classes populaires sont dangereuses, est-ce que dans un premier temps, et ça va nous ramener à ce début de discussion que nous avons eu en tête, est-ce que ces classes ouvrières, ces classes populaires existent-elles encore ?
Oui, elles existent encore, elles n'ont pas disparu bien évidemment. Il n'y a pas eu de disparition de la classe ouvrière, il y a eu une disqualification programmée de la classe ouvrière. Et c'est l'histoire de cette disqualification programmée que nous évoquons dans le dossier d'éléments. On l'évoque par le constat, hein, le constat qu'on a pu faire sur l'absence de la sociologie française, par exemple, dans l'étude de la classe ouvrière française, ce qui est quand même assez incroyable.
Oui, vous devez vous expliquer que ça fait plus de 30 ans que les sociologues ne font plus aucun travaux sur cette classe.
Exactement, oui. Ça a disparu à la fin des années 70. Je reprends un excellent livre de Bertrand Rothé, hein, qui s'appelle « De l'abandon au mépris, comment le PS a tourné le dos à la classe ouvrière », qui est édité chez Seuil, ça vient juste de paraître. Je m'appuie beaucoup sur ce livre pour ce dossier. Et qui explique, depuis les années 60, la fin des années 70, les universitaires ont complètement abandonné les recherches sur le monde ouvrier. Et il a même participé à cette recherche sur les intitulés des thèses en sociologie depuis 1990. Il y a seul 1% d'entre elles utilisaient encore le mot classe, et encore c'était pour parler de l'école. Donc on voit bien que les termes quand je parlais de la disqualification, c'est petit à petit on a oublié. Et ce que nous on rappelle, c'est que tous ces sociologues l'ont repris finalement ce mot et ce terme comme une grande claque ce fameux soir d'avril 2002.
Alors on va revenir un peu en arrière, parce que ces sociologues ils viennent bien de quelque part. Souvent on s'aperçoit qu'ils viennent de la génération de 68, et cette génération de 68 va mépriser cette classe populaire qui d'une part à l'époque n'avait pas envie vraiment de faire la révolution avec eux. C'est-à-dire d'un côté il y avait ces fameux ouvriers de chez Flin, et puis les étudiants de l'époque essayaient de leur expliquer les valeurs maoïstes. Pas forcément facile pour un ouvrier de chez Flin de comprendre ça, c'était même pas évident. Et en plus, ces ouvriers qui étaient quand même tenus à l'époque par la CGT avaient plutôt des valeurs réactionnaires sur la famille, l'éducation, les mœurs. Il y avait un véritable décalage par rapport à ces fils de bourgeois. Et là, il va avoir un vrai divorce entre cette extrême gauche qui va dans les années 70 prendre le pouvoir, et cette classe ouvrière qui, elle, est en train de se transformer.
Exactement. Pour moi, le dessin emblématique de cette période-là, c'est un dessin de, excellent d'ailleurs, de ciné, qui en fait, qui s'appelle La Révolution ne passera pas. Et en fait, dans lequel il y a deux CRS, qui défilent côte à côte, bras dessous, avec trois ouvriers. Et sous cette banderole, la révolution ne passera pas. Et ils sont en train, en fait, d'écraser les jeunes, dans le dessin, hein, ils sont en train d'écraser les jeunes, enfin, de leur dire, la révolution ne passera pas. Et ça va devenir, en fait, finalement, il va ciné avec son talent de synthèse, et même, son mordant, va poser les bases de ce que moi j'ai appelé le mépris de classe de gauche. C'est-à-dire que il va poser, et après on va pouvoir avoir, et on en parlera notamment avec Laurent Cadamessi, sur la création du BOF, au cinéma, dans les médias, etc.
C'est un peu ce que Pasolini disait sur ses étudiants, en disant que les vrais prolétaires, c'était les CRS, c'est eux qui étaient d'origine prolétaire, contrairement à ses étudiants qui étaient d'origine bourgeoise.
Je rappelle simplement que le premier à faire rimer toucher les allocs avec en cloque, c'est Renaud dans sa chanson Le Bof. Et je veux dire, c'est, pour moi, c'est fondateur. C'est voilà.
L'événement fondateur, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est que mai 68 est résumé aujourd'hui, pourrait être résumé sous la forme d'une espèce de monôme d'étudiants attardés et boutonneux. Mai 68, les trotskistes et Cohn-Bendit cherchent à faire basculer la France. Ils vont à Billancourt, ils vont à Flins, et la réponse est très claire, la réponse c'est niette. Niette, nous avons autre chose à faire. Alors on le sait aujourd'hui pourquoi. D'abord parce que on est quand même dans un contexte de, même si c'est la fin de la guerre froide, on sait qu'il y a une affiliation très forte entre le syndicalisme ouvrier, et aujourd'hui l'heure n'était pas, ou en tout cas la consigne n'était pas de provoquer le charivari en France, et donc l'heure n'était pas à la mobilisation syndicale. En revanche, il y avait des choses à gagner pour la classe ouvrière, cette fois-ci dans les accords du Grenelle, et l'humiliation est infligée aux jeunes fils à papa Trotsko-Mao par la classe ouvrière, aujourd'hui fortement syndiquée et filialisée, si j'ose dire, d'un PC qui fait 20% des voix. Or, pour les raisons maintes fois évoquées et qui ne sont pas l'objet de l'émission, c'est quand même la génération des fils à papa Trotsko-Mao qui gagne, et elle n'aura de cesse, y compris dans la ligne de ce qui deviendra le programme commun et l'étouffement progressiste du Parti communiste et de ses courroies de transmission, et puis après la mondialisation économique fait le reste. C'est la disparition, et donc il y a la revanche aujourd'hui à sonner, mais là on est au bout de la revanche, mais les années 70 ont été l'occasion pour les fils à papa Trotsko-Mao de pouvoir faire éclater leur revanche et leur haine contre ceux qui les avaient empêchés de réussir le grand chambardement de 1968.
Vous expliquez aussi que dans ces classes populaires, il y avait à l'époque une admiration des chefs, et que cette classe avait besoin de protection, d'autorité, et c'est vrai que à l'époque le Parti communiste, ils avaient sur le plan international les figures de Staline dans les années 50. On pense aussi à Maurice Thorez, qui a été l'un des chefs charismatiques. Alors plus tard, la figure de De Gaulle l'a un peu remplacé, cette classe qui a quand même besoin d'une protection et d'un État fort. À partir des années 70, c'est un peu fini. Là, on a affaire aux bourgeois de Mitterrand à Pompidou par Giscard. Et cette classe populaire, elle est en train de disparaître à ce niveau-là. Le Parti communiste n'arrive plus à la retenir. Hein. Il n'a plus cette fameuse banque. Lieu rouge qui existait est en train d'éclater, et dans les années Mitterrand, alors Mitterrand est là-dessus a été un virtuose, est arrivé à définitivement faire disparaître le Parti communiste.
Oui, oui. Il y a quand même, entre-temps, il y a effectivement la chute du monde soviétique, il y a aussi des raisons...
Les premières baisses datent de 81 hein, déjà.
Oui, bien sûr.
Il y a les transformations profondes du tissu économique et industriel français. Et dans votre question, Patrick, je pense que vous avez allègrement mélangé trois éléments. Vous allez mélanger la classe populaire, la classe ouvrière... Et le Parti communiste. Je vois bien l'idée de votre question, et votre question est une bonne question. Mais premièrement, il serait imprudent de confondre classe populaire et classe ouvrière avec le Parti communiste. On sait très bien qu'une bonne partie, et on le voit encore aujourd'hui, de la classe ouvrière s'est retrouvée dans un certain nombre de valeurs qui sont bien loin d'être celles du Parti communiste et qui ont d'ailleurs été totalement opposées.
Parce que le Parti communiste a lui aussi changé.
Ensuite, même au plus fervent de l'époque, il y avait des syndicats jaunes. Hein. Oui, les syndicats jaunes, c'était pas les vigiles payés par le patron.
D'après ce que j'ai trouvé, les ouvriers, même à la grande époque du Parti communiste, n'étaient que 50% à voter communiste.
Mais bien sûr. Depuis le catholicisme social, on va pas tout le refaire, mais enfin, il y a une vieille tradition. Ensuite, on mélange, et c'est ça qui est intéressant, on mélange la classe populaire et la classe ouvrière. Et le début de votre question, j'aimais bien le début de votre question, Patrick, puisque vous disiez, voilà, dans la classe ouvrière, il y avait une certaine figure qui était celle du chef, etc. Je crois qu'il est fondamentalement attaché à l'environnement de l'ouvrier, là je parle bien de l'ouvrier, presque de l'homme d'usine. L'ouvrier, l'homme d'usine, c'est un prométhéen, c'est un homme qui transforme la matière dans des hiérarchies qui sont profondément construites, alors parfois mises en scène, évidemment, le contremaître des charbonnages de France ou quoi que ce soit, on peut en donner une image à la Zola, mais il y a un respect de la hiérarchie, il y a un respect de la hiérarchie et de la compétence technique. Et donc dans la classe ouvrière, oui, il y a la compréhension et la facilité avec une vision, un ordre du monde qui est profondément hiérarchique. Ce que n'a pas forcément la classe populaire, et aujourd'hui on est trompé par un certain nombre notamment de statistiques. Vous savez qu'en France on classe les salariés en trois catégories, hein, les IC, les ingénieurs et cadres, les étames, employés, techniciens, agents de maîtrise, et puis les ouvriers. Et donc aujourd'hui, on peut trouver, vous m'aviez donné le titre, le chiffre, Patrick, je crois 36% d'ouvriers, oui, en fait 36% de personnel d'exécution faiblement qualifié. C'est pas à l'heure où tout le monde se plaint de la désindustrialisation qu'on va considérer qu'il nous reste 36% d'ouvriers dans les fonderies ou les usinages. Et donc aujourd'hui, on a affaire à une classe populaire ou dite comme telle, mais avec le même exercice de novlangue que quand on parle des quartiers populaires aujourd'hui dans nos médias, qui signifie en fait quartier à grande majorité de population immigrée et où la police n'entre plus, hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc aujourd'hui, quelle est la classe ouvrière? La classe ouvrière est la classe populaire, pardon, est principalement constituée de trois catégories. Premièrement, c'est des opérateurs, du personnel d'exécution, des salariés très faiblement qualifiés et ultra majoritairement issus de l'immigration. Deuxièmement, ce sont des populations, toutes catégories ethno-professionnelles confondues, qui vivent de l'assistanat. Et troisièmement, c'est une fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou nationale, des agents de catégorie C et D, qui sont d'ailleurs très faiblement rémunérés, parce que l'État, qu'on le veuille ou non, rémunère très mal et très peu ses agents, et qui sont d'ailleurs, et ces populations-là, sont aujourd'hui les forces de réserve et de soutien de la gauche, ou ce qu'il en reste, ou d'un Mélenchon, et il n'y a plus un seul ouvrier. Parce que ce qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a un mouvement également de transformation profonde du modèle industriel et économique, de la modernisation des entreprises et des industries françaises, qui fait que aujourd'hui, les principaux secteurs qui sont de ce qu'on appelle l'usine, qui sont de l'assemblage, vous avez aujourd'hui des postes qui sont hautement qualifiés, et que ce mouvement a servi ce qui était l'ouvrier aujourd'hui, l'ouvrier d'hier. Et donc l'ouvrier aujourd'hui devient un technicien hautement qualifié. Rappelez-vous, nos pères faisaient la distinction entre les ouvriers et puis les OS, ces fameux ouvriers spécialisés qui étaient l'aristocratie du monde ouvrier. Aujourd'hui, tous les ouvriers sont des OS. Ou peu ou prou, évidemment, il ne faut pas être complètement généralisé. Mais donc, aujourd'hui, l'ouvrier français ou l'ouvrier européen est beaucoup plus un technicien de haut niveau, sur une technicité éprouvée, tout simplement parce que s'il y a encore une usine qui tourne de ce côté-là du continent, c'est parce qu'il y a une technicité qu'on ne peut pas équivaloir, que ce soit en Inde, en Chine ou ailleurs.
Alors, vous êtes sur Radio Courtoisie et nous sommes en train de voir comme thème, avec l'équipe d'Éléments et Philippe Restel, ces fameuses classes populaires, ces fameuses classes ouvrières. Pour revenir, et justement c'est ça qui était intéressant dans ce que nous a dit Philippe, c'est que effectivement dans ces classes populaires il y a une figure qui a un peu remplacé du côté de la gauche ces classes ouvrières, c'est la figure de l'immigré. Et C'est assez intéressant que dès les années 60, on s'aperçoit que cette classe ouvrière n'arrive pas à faire cette jonction, et Philippe l'a bien dit tout à l'heure, avec cette génération de 68. Donc, nos fameux maoïstes, nos fameux trotskistes, etc., vont décider que la nouvelle figure qu'il faut aider, ce sont ces fameux damnés de la Terre, qui sera le titre du livre de Frantz Fanon, et que Jean-Paul Sartre expliquera dans une j'ai repris, c'est en 61, dans les damnés de la Terre, Sartre a une introduction du livre de Frantz Fanon qui est quand même je vous la lis. Car en premier temps de la révolte, il faut tuer, abattre un Européen. C'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé. C'est-à-dire que là, on voit bien que cette gauche, cette gauche de 68, va préférer la figure de l'immigré par rapport à l'ouvrier. Et donc, elle va dans son champ intellectuel, elle va faire complètement disparaître cet ouvrier.
La citation pour Frantz Fanon, c'était la citation de Sartre, c'était dans son combat anticolonialiste.
Oui, mais qui va déboucher en 68 à ce changement de population à ce niveau-là. Parce que c'est à partir des années 70 que nous allons commencer à avoir, grâce aux industriels, une classe d'immigrés qui va remplacer ces fameux ouvriers dans les usines.
Oui, bien sûr. Sur cette question de l'immigration, il y a en tout cas dans la classe que je vais continuer quand même d'appeler classe ouvrière, dans la classe ouvrière, le sentiment qui a été assez bien. Enfin, dans le dossier, on reprend en fait tous ces sociologues. Pourquoi on a étudié tous ces sociologues qui sont quand même très marqués à gauche, tout simplement parce que personne d'autre ne fait le travail. C'est encore un des.
Pour certains, le mot sociologue est égal à gauche. Hein,
peut-être, mais le problème, c'est que la pensée, même le travail de la pensée, même ne signifie plus, enfin il n'y a plus de pensée à droite, donc c'est le problème, c'est ce travail de la pensée, il est fait à gauche, ce travail là intellectuel est fait, et donc on est obligé de piocher là-dedans et de séparer le bon grain de l'ivraie. Il se trouve que sur la question de l'immigration, ces sociologues ont pris en pleine face ce qu'ils appellent le séisme du 21 avril 2002. Et à partir de là, ils ont commencé à travailler sur cette question-là, sur le rapport entre la classe ouvrière et l'immigration. Il y a un livre qui est pour moi emblématique, c'est Les gars du coin, qui a été écrit par un très jeune sociologue qui s'appelle Nicolas Réami, et qui en fait pendant 10 ans s'est installé dans un village ouvrier, une commune ouvrière, et qui a donc, dans un temps qui est quand même finalement assez long, pu observer combien les relations entre les patrons et les ouvriers se métamorphosaient, enfin c'était profondément métamorphosé, en passant d'un paternalisme industriel qui était protecteur à une précarité généralisée. Et il a observer en fait ces effets-là sur la jeunesse, sur ce qu'on appelle les gars du coin, c'est-à-dire les gars du coin, c'est les gens qui sont restés, oui, les enfants qui sont restés, qui n'ont pas pu suivre un cursus scolaire ou qui voulaient rester dans leur village. Et en fait, donc il a suivi ça pendant une dizaine d'années, cette réflexion, enfin ce travail est né à partir du moment où cette commune ouvrière, qui était quand même assez fortement prise par le Parti communiste, le Front National a été le premier parti, et au projet de traité constitutionnel européen, cette commune a voté à 72% contre le projet de traité constitutionnel européen, et le Front National est devenu le premier parti à 38%. C'est-à-dire, à très exactement, le Parti Socialiste dans cette commune-là était à 11%. C'est-à-dire qu'il y a eu, et c'est là où quelque chose dans la sociologie a changé en France. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est mis à observer la jeunesse rurale, la jeunesse ouvrière rurale. Alors, cette jeunesse rurale ou rurale ouvrière, elle n'était pas, elle est apparue par un mouvement de ressac idéologique. C'est-à-dire que quand le communisme a implosé, que les forteresses ouvrières traditionnelles que décrivait Philippe ont elles aussi implosé, c'est-à-dire je parle de Fos-sur-Mer, de la sidérurgie lorraine, de Boulogne-Billancourt et tout ça, qui étaient très fortement politisées.
Avec,
et qui, elle,
avec
était,
une contre-société, c'est-à-dire
voilà,
qu'il y avait tout ce
et qui, elle, était étudiée en long, en large et en travers par des sociologues militants. Quand ces gens-là, ces ouvriers-là ont disparu, enfin disparu, oui, ont implosé, explosé, quand ces forteresses sont complètement explosées, on a eu l'impression qu'il n'y avait plus de classe ouvrière. Mais en fait, il y en a une. Il y en a une, elle est dans ce qu'on a appelé la France périurbaine. C'est-à-dire que elle a été cachée pendant 20 ans. C'est tout l'intérêt de ces travaux, de révéler cette France périurbaine, c'est finalement révélé ce soir du 21 avril 2002. Et de plus en et puis, effectivement, s'est mis à être un point d'étude depuis une dizaine d'années.
Je vais juste avant qu'on ait nos invités au téléphone, il y en a qui essayent de récupérer parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a eu cette élection choc où la famille Le Pen est réentrée dans le magasin de porcelaine, comme vous dites dans votre article. Certains gens de gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, ont décidé depuis quelques années d'essayer de revenir vers cet électorat-là. Mais on n'est pas d'accord sur la définition de cette classe ouvrière, là, du côté de Jean-Luc Mélenchon, et on l'a bien vu au moment où il est rentré à Hénin-Beaumont, lui, il la fantasme total. C'est Zola, c'est les mines, etc. Il n'a pas compris que tout ça avait un peu disparu. Ou alors, il fait semblant, on en parlait hors antenne avec Philippe, il fait semblant de croire qu'elle existe encore.
Les hommes politiques qui sont de véritables militants politiques, et c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, ils ont beaucoup de défauts, mais je pense qu'ils connaissent intimement la réalité du territoire. Moi, je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon sait très bien que la classe ouvrière ou populaire qu'il manie et illustre dans ses discours n'existe pas. Je lui fais au moins ce crédit d'intention. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que il utilise la dramaturgie, les images, les mythologies dont la gauche a besoin de se repaître pour aller toucher le cœur du petit prof syndiqué à Sud ou je ne sais où, et qui, en votant Mélenchon, a l'impression qu'il renoue avec le combat séculaire de ses ancêtres en faisant obstacle au patronat le plus cupide, sachant que la victime dont on parle, malheureusement, n'existe plus depuis longtemps.
Bon, on va juste faire une petite pause musicale et on va avoir tout à l'heure là une figure emblématique que cette gauche 68 art a créée, c'est Le Beauf. Dans le studio de Radio Courtoisie, dans ses chroniques de la vieille Europe, pour cette deuxième partie où nous étudions avec Pascal Essérique et sa son équipe de la revue Éléments, Les Oubliés, Les Classes Populaires, Nouvelles Classes Dangereuses. Donc nous allons avoir au téléphone Laurent Cantamessi. Est-ce que vous m'entendez, Laurent Cantamessi?
Bonjour.
Bonsoir et merci d'être sur Radio Courtoisie. Alors, je voulais savoir, vous avez dans ce numéro d'Éléments décidé de voir la figure du beauf. Cette figure du beauf, elle naît quand et elle apparaît à quelle époque?
Celle qui est définie dans l'article qui est paru dans le dernier plan, cette figure du beauf, elle naît sous la plume ou sous le crayon du dessinateur Cabu en 1975 pour le journal Charlie Hebdo. Et elle est entre 1975 et 1980, date de la parution de l'album éponyme Le Beauf, publié par Cabu. Donc d'ailleurs, au niveau des repères chronologiques, c'est intéressant parce qu'elle naît, disons, dans la période qui marque l'avènement de Valéry Giscard d'Estaing et, disons, un petit peu la liquidation de la vieille droite et des droites gaullistes au profit d'une nouvelle droite libérale et l'avènement de François Mitterrand en 1981. Donc c'est vraiment dans cette courte période, 75-80, qu'émerge cette figure sous la plume de Cabu.
Alors le beauf, il a effectivement dans le dessin ou même dans certains films, il a des traits bien caractéristiques sur le plan physique. Il est souvent très laid, fort en épaule, les bras épais. Vous expliquez, c'est un peu un mélange, c'est un peu un ouvrier qui aurait réussi, qui serait dans dans une sorte de classe moyenne, mais qui n'a pas fait d'études et qui a un avis sur tout.
Oui, tout à fait. Peut-être qu'on le voit apparaître donc sous la plume de Cabu. C'est un individu gras dans tous les sens du terme, moustachu, avec fort en gueule et qui ressemble en effet un petit peu, qui a un petit peu la caricature de l'ouvrier, de celui qu'on croise au comptoir du PMU local. Et d'ailleurs, Cabu lui-même, explique que c'est à Chalon-sur-Marne qu'il a rencontré, dans un bistrot Chalon-sur-Marne, qu'il a rencontré les types humains, disons, qui ont pu lui inspirer ce beauf.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'ouvriers qui passent leur vie au bar du PMU du coin, les vrais ouvriers, j'entends. Je referme la parenthèse en écho à notre discussion de la première demi-heure, monsieur. Donc c'est pour ça.
Alors je ne sais pas exactement, mais évidemment, c'est ce qu'il expliquait à Florence Aubenas en 1996.
Oui, parce que
qu'il avait rencontré que dans ce fameux bistrot de Chalon-sur-Marne, il avait un bistrotier anonyme lui aurait inspiré en fait cette figure du beauf. Alors il faut dire en effet, Cabu naît dans vient d'un milieu social assez
bourgeois.
Assez bourgeois, il vient de la petite bourgeoisie en fait. Hein, contrairement à ses acolytes de Charlie Hebdo, que Cavana par exemple. Cabu retranscrit sa figure à la fois, sa figure un petit peu fantasmée, quoi, du populo, qu'il retranscrit sous les traits du beauf, qui aurait pu lui être inspiré par cette figure de bistrotier. Le beauf, c'est le roi du comptoir en fait, en quelque sorte.
Oui, il est souvent alcoolique, il est raciste, hein, en règle générale, et il a souvent un berger allemand, et c'est un peu cette figure que les 68ards craignent dans cette France ouvrière, rurale, etc. Ils fantasment, ils mettent tout leur mépris autour de cette figure du beauf.
Ah bah tout à fait, d'ailleurs. L'émission apostrophe du 25 juillet 1980 où Cabu va présenter son album du beauf est très instructive parce que Cabu revient sur des détails de manière plus précise ce qu'est pour lui ce qu'elle est les valeurs qu'incarne le beauf, et on s'aperçoit que ce beauf, c'est à la fois, en fait, c'est à la fois le salarié. On est encore dans une période, et Kabul incarne un peu, qui vit un petit peu sur l'héritage libertaire de mai 68. Donc c'est le beauf, c'est à la fois celui, l'incarnation d'un salariat borné, le racisme, le nationalisme, mais aussi la frange ouvrière, la frange qui a les vieux ouvriers qui ont pu voter pour le Parti communiste et qui ont été dépassés par l'extrême gauche trotskiste, libertaire, progressiste. Donc le groupe, c'est un peu un mélange de ces, il prend un petit peu dans ces deux milieux, quoi. Il emprunte aux nationalistes, aux racistes, il emprunte aux ouvriers, aux communistes, pour former cette espèce, en effet, de repoussoir pour une certaine gauche intellectuelle progressiste, pour former cette figure effrayante pour cette gauche-là que Camus incarne aussi très bien.
Est-ce qu'on pourrait dire que celui qui l'a le peut-être le mieux joué dans le cinéma français, c'est Jean-Yann? Je pense au film Que la bête meurt, où il joue le rôle d'un beauf, alors qui a un peu mieux réussi, mais qui va par un accident tuer un gamin. C'est un peu ça, cette figure du beauf. C'est quelqu'un aussi qui est lâche, veule, et qui n'a aucun courage.
Ah oui, tout à fait. Bah, Jean-Yann, Jean-Yann l'a incarné à merveille. Je dirais juste que Jean-Yann a utilisé de son côté ce personnage à sa manière pour en faire un personnage assez pour subvertir un petit peu le personnage, en fait. Mais en effet, le personnage qu'il incarne est une représentation du beauf. On pense évidemment aussi au personnage de Dupont-la-Joie. C'est devenu un type, disons, un type social et à la fois une invention politique qui décrit le français moyen dans les outrances que la... qui décrit le français moyen dans les outrances qu'une certaine intelligentsia peut imaginer, en fait, c'est-à-dire lâcheté, volerie. C'est le type qui ne comprend pas son époque et qui a un avis sur tout, et c'est devenu au fil du temps une arme politique. C'est-à-dire que Kabul a fait un sujet comique, mais ce sujet comique est devenu au fil du temps une arme politique, dans le sens où finalement, au bout d'un moment, le beauf est devenu le symbole du peuple qui décidément ne comprend rien à rien. Et qui se montrent systématiquement qui rejettent l'universalisme, qui rejettent le contact avec l'autre, qui est toujours raciste, nationaliste, qui récrimine toujours,
qui vote mal, qui vote mal, oui,
qui vote mal.
Quand il vote.
Alors, je me rappelle d'ailleurs je ne rappelle plus quel député avait dit ça, mais c'était dans le Canard enchaîné qui commentait les résultats de 2002, et donc la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour, et qui commentait la petite phrase d'un député qui avait dit on n'est pas content du visage que nous a présenté la démocratie en avril 2002, et le journaliste qui citait cette petite phrase disait bon bah voilà, c'est bien, c'est toujours ça le problème avec la démocratie, en fait. Et donc voilà, ce beauf, on le renvoie finalement, on l'utilise à chaque fois pour il est utilisé pour représenter ce peuple qui vote mal, qui pense mal, et qu'il faut remettre inlassablement dans le droit chemin.
Le peuple repoussoir.
Ce beau va se développer. On va voir aussi, par exemple, dans la bande dessinée, les Bidochons, qui vont être un peu une autre aventure. On va même le voir dans un côté peut-être un peu moins hard au cinéma. Je parle pas forcément de Dupont-la-Joie, mais je pense à une série comme les films de camping, c'est-à-dire
hard et un peu prohibé sur Radio Courtoisie, Patrick.
Non, mais hard dans sa violence.
Je comprends bien ce que ça veut dire. Hein.
Oui.
C'est un grand dé, je vous signale.
Est-ce que vous avez l'impression que ce personnage qui est un peu la crainte de cette classe bourgeoise de gauche est en train de disparaître ou elle existe encore? que ça soit dans le cinéma, la BD, en dehors de Cabu, qui, à mon avis, à son âge, va peut-être commencer, peut-être à arrêter de faire des beaufs dans ses dessins.
Si, si.
Il doit être vieux. Je vous laisse répondre, Laurent Cantamessi.
Alors, Cabu lui-même, il a fait évoluer son beauf, puisque son nouveau beauf, qui est toujours aussi fort en gueule, qui porte maintenant quatre gants et blouson de cuir, est un beauf sarkozyste. Je ne sais plus quand il a fait, je crois qu'il a fait évoluer ce beauf, d'ailleurs au tournant de l'année 2007, c'est le personnage du nouveau beauf de Cabu, donc il a un peu évolué. Mais en effet, ce personnage est toujours présent aujourd'hui dans le cinéma français. Il a, disons, un parfum de ringardise, en fait. C'est-à-dire qu'il a servi de repoussoir pendant des années, ce beauf, pour opposer une certaine idée du progressisme à l'immobilisme désolant, disons, d'une partie de la population. Aujourd'hui, je dirais que la caricature ne fonctionne plus aussi bien, en fait. Même dans des films comme dans un film comme Camping, en fait, on a l'impression de voir un cliché qui n'est plus tout à fait
un canard sans tête, oui.
Pardon.
Un canard sans tête, un cliché mort, un astre mort.
Un cliché mort, exactement. Voilà, un cliché qui est toujours inlassablement réutilisé, mais bon, qui en effet comme un canard sans tête.
Et si je peux me permettre, ce qui a changé également dans ce cliché, puisque on parlait de cinéma, c'est que dans l'article d'Éléments, vous opposez une belle photo de Gabin dans La Belle Équipe à Franck Dubos dans Camping. Dans La Belle Équipe, Gabin est un ouvrier qui vit de son travail. Franck Dubosc est un chômeur qui vit d'allocations en permanence. La classe ouvrière, messieurs, y compris dans les symboles que vous utilisez vous-même, elle a disparu auprès d'une classe populaire fortement constituée d'assistés. Et il va falloir que vous l'écrivez vous-même. Mais vous en montrez les références.
On va remercier Laurent Cantamessi pour son intervention. On va juste prendre David Lépée, parce qu'on a peu de temps pour parler du cinéma anglais. Alors, le temps que notre technicien très efficace à Radio Courtoisie appelle David Lépée que l'on va avoir de Suisse. Pascal Essérick, comment expliquez-vous, alors dans le cinéma, effectivement, le cinéma français ne parle pas de cette classe populaire ou très peu. Le cinéma italien et anglais va en parler énormément. Comment vous voyez cette énorme différence qu'il y a eu entre ces cinémas européens?
Je pense que d'un côté, le cinéma français a totalement collaboré parce que c'est un cinéma officiel qui est largement subventionné, donc il a collaboré avec le système, tandis que le cinéma anglais s'est affronté, et ça a peut-être été d'ailleurs une des raisons de son éclat, s'est affronté a affronté bille en tête Margaret Thatcher, donc la confrontation a donné un excellent cinéma. L'absence de confrontation en France a donné un cinéma médiocre.
Alors, bonsoir David Lépée, merci d'être avec nous sur Radio Courtoisie. On a peu de temps, David, mais on va essayer de faire, parce que votre article est assez passionnant. Comment expliquez-vous cette résistance du cinéma anglais et surtout son talent pour comprendre, le drame de ces classes ouvrières qui, à l'époque de Thatcher, mais bien ensuite, alors qu'en France, il a été impensable de faire un cinéma à ce niveau-là et de parler des classes populaires?
Alors c'est vraiment très paradoxal parce que c'est pas vraiment le cinéma britannique qui résiste dans la mesure où si Ken Loach est aujourd'hui un réalisateur internationalement connu, c'est avant tout grâce à l'international et notamment à d'autres pays d'Europe, puisqu'il semble que chez lui son succès soit plutôt médiocre. Alors que quand la France dont on parlait, quand elle fait des films à vocation populaire, ce qui est très rare et ce qui donne pas forcément des chefs-d'œuvre mais des films qu'on aime, comme les Ch'tis par exemple, au contraire ça marche très bien sur sol français. Donc examiner la réalisation cinématographique ou de public, c'est deux choses différentes. Alors là, on a le talent d'un individu, Ken Loach, de quelques autres aussi, Stephen Frears, Nick Love, mais surtout Ken Loach, qui fait ça et qui a une sensibilité particulière, mais il n'y a pas, à mon avis, malheureusement pour l'Angleterre, un terreau plus favorable que ces quelques exceptions.
Alors, par contre, dans ces exceptions, vous donnez l'exemple d'un film qui est, je vais être obligé de le dire en anglais, parce que je crois qu'il n'y a pas eu de traduction en France, qui est It's a Free World, oui. Où il met les contradictions d'une ouvrière anglaise face au travail au noir et face au sans-papiers. C'est un film qui serait quasiment impensable en France.
Oui, ben justement, c'est un film qui, à l'image du reste de son œuvre, mais celui-là particulièrement, évite tout manichéisme dans un sens ou dans l'autre. À la fois, il n'y a pas ce mépris du populo qu'on voit dans les films dont vous avez parlé jusqu'à présent, mais on n'est pas non plus, j'irais, ni dans le réalisme socialiste à l'ancienne, qui est une forme d'idéalisme, ni même dans l'héroïsation des classes ouvrières, comme dans Renoir, par exemple, La vie est à nous, qui est un très grand réalisateur, mais qui n'est pas dans le réalisme. Lui fait ça avec, comme je l'ai écrit, beaucoup d'empathie mais peu de complaisance, c'est-à-dire en montrant la classe ouvrière n'est pas le peuple élu moralement, elle n'a pas forcément de vertus spécifiques, ou plutôt si elle en a via cette culture populaire, il y a une vision assez orwellienne, seulement ces valeurs-là sont battues en brèche par le néolibéralisme, par le capitalisme qui justement dans la stratégie ou du moins l'effet consiste à faire se dresser les pauvres les uns contre les autres et notamment les pauvres contre les encore un peu plus pauvres. Et ce que montre ce film It's a Free World, c'est justement comment des déclassés en déclassent d'autres via l'exploitation de l'immigration illégale, notamment du travail intérimaire, et à tel point qu'on se demande qui sont les méchants et où exactement est-ce que les valeurs s'opposent.
Oui, parce que pour essayer de résumer, parce que le film n'est pas forcément facile, c'est une ouvrière qui a des gros problèmes et qui va monter une agence d'intérim et proposer des sans-papiers en leur promettant qu'ils vont être régularisés, mais elle s'aperçoit qu'elle se fait beaucoup plus d'argent en faisant du travail au noir avec des sans-papiers et qu'elle ne compte pas les régulariser. C'est un peu ça.
Voilà, exactement. Toujours en ayant derrière elle une dette extrêmement élevée, un enfant à charge, son mari, une famille. Enfin, il y a toujours de très bonnes raisons de trouver des moyens de gagner de l'argent et de très mauvaises manières de gagner cet argent. C'est là tout le dilemme du film.
Alors, il y a souvent beaucoup, en dehors des films de Ken Loach, il y a souvent beaucoup d'humour dans ce cinéma. Je pense bien sûr à Full Monty ou au fameux Billy Elliot. Mais il n'y a jamais de moquerie comme on pourrait l'avoir dans un cinéma français. On parlait tout à l'heure de Camping. Ce ne sont pas des films qui se moquent de cette classe populaire.
C'est des films, au contraire, qui démontrent une sympathie, une empathie. Ken Loach, c'est un militant. C'est à la fois une approche réaliste et militante, dans la mesure où on sait bien que c'est un militant, on sait où vont ses engagements populaires. Il l'a fait à travers des films très clairs, notamment historiques sur la guerre d'Espagne ou d'autres choses comme ça. Mais il ne veut pas tomber dans ce manichéisme dont je parlais. Donc il préfère cette approche qu'on pourrait qualifier de naturaliste au sens où on l'entend au sujet de Zola. C'est-à-dire, d'écrire suffit déjà pour un spectateur averti à comprendre quels sont les problèmes dans les mécanismes de l'économie qui font que ces gens-là sont dans ces situations aussi misérables.
On pourrait comparer ce cinéma anglais à l'âge d'or du cinéma italien. Je pense à des films comme Pain au chocolat, Se passant en Suisse, ou Affreux sale et méchant, ou L'argent de la vieille. Vu de Suisse, David Lépé, pourquoi, à votre avis, la France a été incapable de produire ce genre de cinéma ?
Alors, vu de Suisse, je vous répondrai qu'on n'a pas réussi à faire mieux. Non, et la France n'a peut-être pas produit ce genre de cinéma. Ceci dit, elle tient la comparaison, en tout cas dans le temps, dans la mesure où tous les films, je parlais de Renoir, mais on pourrait parler de Carnet. Je pense que ça vaut Ken Loach dans un genre tout à fait différent. Mais si vous regardez Hôtel du Nord ou des films comme ça, qui sont
des films déjà anciens.
Je pense que la France est vraiment un peu a le potentiel et a fait ses preuves dans ce genre de cinéma. Mais ce qui s'est passé, et ça c'est un de mes collègues qui l'écrit dans un autre article, c'est que tout simplement, sociologiquement, les réalisateurs, les scénaristes et même les acteurs eux-mêmes ne font plus partie de ces classes, font partie maintenant presque tous d'une jet-set très parisienne centrée et très embourgeoisée, qui fait qu'ils n'ont tout simplement plus l'expérience de terrain ou d'observation pour faire ce genre de film et qu'ils n'en ont plus envie parce que ça ne les intéresse plus.
On pourrait hasarder une analyse aussi, disant que
Philippe Festel,
la différence qu'il y a entre les films de Carnet, de Duvivier, et le fait qu'après cette période-là, on n'ait pas eu de bons films, c'est qu'entre-temps, le Parti communiste a fait partie des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale en France, contrairement aux autres pays que l'on cite, et qu'à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste co-dirige avec les gaullistes au nom de cette alliance sacrée, et qu'il n'y a pas pire adversaire des ouvriers, les vrais, que le Parti communiste. Et le Parti communiste, de ce jour-là, commence à détruire, nolens volens, la figure tutélaire de l'ouvrier.
Mais dans tous les artistes communistes, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, ont tous été confrontés à ce dilemme qui est un dilemme philosophique, c'est-à-dire en même temps il y a l'exaltation d'une identité de classe et d'une culture de classe, une exaltation morale en disant nos valeurs sont les meilleures, sont les plus vertueuses, sont les plus humaines, et en même temps il y a l'idée d'une société sans classe, donc d'une manière de dépasser, de transcender cette classe. Alors à partir de là, quelque part le marxiste orthodoxe ne devrait même pas célébrer la culture ouvrière, il devrait la renier. Donc je me demande si ça ne joue pas un rôle. Sinon il y a ce déni peut avoir deux raisons: ou le mépris, ce qui est le cas dans la plupart de l'intelligentsia cinématographique et culturelle, ou alors la volonté de transcender ça. Et c'est vrai que c'est un débat qui nous ramène très loin dans l'histoire de la gauche. Robespierre lui-même disait il s'agit moins de proscrire l'opulence que d'honorer la pauvreté. Non, il s'agit moins de proscrire l'opulence que de rendre la pauvreté honorable. Dans cette phrase-là, on a déjà une glorification de la classe ouvrière ou de la pauvreté, de la classe populaire, qui exclut son dépassement. Donc dès que les artistes s'y attachent, eux qui sont intéressés à l'aspect culturel, à l'aspect de culture de classe, ils sont obligés de choisir leur camp.
Merci David Lépée, et vous saluer de notre part et de toute l'équipe. À moins que Philippe avait peut-être quelque chose que vous voulez rajouter.
Mais j'ai trouvé que notre invité était passionnant et qu'on lui coupe le sifflet là. Mais
il y a encore un peu de temps, mais
moi je lui donne de mon temps. Après c'est moi qui coupe.
Ah bon. Non, c'était simplement parce qu'on va parler aussi de avec Mathilde de son article. David Lépée, écoutez, merci pour ce magnifique.
Je suis désolé, j'ai tout fait travail. Vous parliez, mais il veut pas, vous avez vu.
De votre travail, vous saluerez bien sûr la Suisse et vos compatriotes.
Eh bien, j'en profite juste quand même, puisque la date du jour, étant donné le sujet du jour, pour souhaiter de bonnes fêtes du 1er mai à tous les travailleurs qui nous écoutent et également à tous ceux qui en cherchent du travail.
Merci beaucoup. Nous allons. Il est. Oui, on est juste, hein, mon cher Philippe. Si vous voulez, vous m'avez dit que vous aviez plein de choses à me dire. On va parler un peu avec Mathilde d'un auteur de science-fiction, Alain Damasio. Alors Mathilde, vous a gravé un peu votre cœur parce qu'il est, c'est un auteur de gauche. Il est plutôt révolutionnaire.
Philippe va pas être content. Hein, je vous le dis tout de suite.
Gauche vraiment radicale.
Donc il va falloir. Et en plus, je crois que ça va être la chose la plus grave, c'est qu'il est créateur de jeux vidéo, Philippe. Je pense que Philippe.
Écoutez, Patrick, si vous arrivez à en parler sans prononcer de mots anglais, ça ira bien.
Comment peut-on, Mathilde Giblin, s'intéresser à un auteur ayant un CV aussi lourd?
Tout simplement parce que ses écrits sont passionnants, à la fois sur le fond et sur la forme. C'est un auteur qui a écrit principalement deux romans, deux gros ouvrages, La Zone du Dehors et La Horde du Contrevent, et qui sont deux ouvrages que je pense chaque militant, qu'il soit de droite ou de gauche, devrait lire. Je vous lis juste une phrase qui est la première phase, la postface d'Alain Damasio pour son ouvrage La Zone du Dehors. Il a écrit, alors attendez que je retrouve cette phrase, ce livre a été écrit dans un but unique, comprendre en Occident, à la fin du XXe siècle, pourquoi et comment se révolter. Donc le ton est donné. Alain Damasio écrit contre les forces qui sont dévitalisantes de l'homme. Il trouve que la société actuelle, il la compare un peu à une sorte de bloc de gélatine, une sorte de glue démocratique dans laquelle les gens sont engoncés. Et ce qui est assez intéressant, c'est le parallèle avec un article suivant qui a été écrit, donc Démocratie, la leçon suisse, par un certain Félix Maurès, et que je viens de lire tout à l'heure.
Que nous saluons.
Et je viens de lire tout à l'heure, et le parallèle est assez intéressant, puisque déjà Tocqueville parlait d'une sorte de pouvoir immense et tutélaire qui va se charger d'assurer la jouissance donc des citoyens, de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant, doux, il ressemblerait à la puissance paternelle. maternelle. Et donc, il a comme objet de préparer les hommes à l'âge viril. Enfin, il n'a pas comme objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il cherche au contraire à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir, qu'ils travaillent à leur bonheur, etc. Donc, Tocqueville parle déjà de ce pouvoir qui, en fait, va empêcher les gens de se révolter. Il n'y a plus de puissance contre laquelle se révolter. C'est au contraire une sorte de glue, une sorte de gélatine dans les gens, dans laquelle les gens s'enfoncent. Et Alain Damasio, donc son ouvrage La Zone du Dehors, va parler de cette société qui se passe, une histoire qui se passe en 2084, donc c'est de la science-fiction, sur un astéroïde. Évidemment, 2084 n'est pas une date fortuite. Et sur un astéroïde où, justement, les gens sont pris dans cette social-démocratie. Et un groupe va essayer de se révolter, un groupe qui s'appelle justement La Volte, et va essayer de sortir de ce cocon pour aller dans ce qu'il appelle la zone du dehors, un endroit où il fait très froid, où l'air est difficilement respirable, mais où les gens vont avoir envie de vivre parce qu'ils vont pouvoir se confronter à la vie et vont pouvoir avoir des sensations et pouvoir retrouver ce goût et ce sel de la vie. Et La Horde du Contrevent est un deuxième roman qu'il a écrit, qui est passionnant aussi, où les gens, un groupe formé depuis l'enfance, va remonter jusqu'à l'origine du vent. Donc c'est une marche qui va durer 40 ans ou plus, où personne n'est jamais revenu de toute façon, donc personne ne sait comment ça se finit. Mais ce qui est important, ce n'est pas le but, c'est le chemin que l'on parcourt et c'est ce qu'on apprend sur ce chemin-là qui va être intéressant. Et Alain Damasio a beau être un auteur d'extrême-gauche, de gauche radicale, il nous livre une société qui est vraiment traditionnelle, puisque chacun a un rôle particulier dans ce groupe, dans cette horde. Il y a un chef, désolé, il y a un chef, il y a une personne qui est chargée du feu, une personne qui est chargée de chasser, une personne qui est chargée de cueillir les plantes, une personne qui est chargée. Chacun a un rôle et c'est cette complémentarité des rôles qui fait que le groupe va pouvoir continuer à avancer. Et c'est un groupe qui est profondément ancré dans la terre, puisque même si c'est un groupe mouvant, etc., ils ont besoin donc de la terre pour avancer. C'est un groupe qui est donc.
On sent bien quand même une grosse influence d'Orwell. Vous parliez de tradition. Oui. On sent qu'il a lu aussi Michéa. C'est quelqu'un qui est justement de cette gauche qui et quand on parlait de cette gélatine gluante, on pense forcément à 1984 quelque part.
Oui. C'est sûr qu'il essaye de reprendre. Enfin, il a, je pense, essayé de peut-être de rénover un petit peu Orwell, sachant qu'il introduit tout ce qui fait la particularité de nos sociétés. À savoir la surveillance, tous les moyens de technologie moderne. Et d'ailleurs, il me disait quand je faisais cette interview qu'il était absolument désemparé. Il n'avait pas pensé au téléphone portable encore quand il a fait son premier ouvrage. Et donc là, il est en train d'en préparer un nouveau qui s'appelle Les Furtifs et qui va vraiment parler encore plus de la prégnance de ces nouvelles technologies sur notre mode de vie et la façon dont ça a pu modifier notre rapport à la fois à soi-même, à la fois aux autres et au monde. Et ça, c'est vrai que c'est des thèmes qu'il essaye de... Juste, je voudrais aussi insister sur, parce que c'est un écrivain qui est assez intéressant à la fois sur la forme et la façon dont il écrit. C'est assez rare de trouver un écrivain qui a vraiment un travail, il se considère un petit peu comme un ouvrier, pour le coup, comme un ouvrier qui va avoir un vrai travail sur les mots, un vrai travail sur les sons. Il va réfléchir, il disait justement, une feuille, un livre, c'est très austère, c'est des petites lettres noires sur du papier blanc, c'est extrêmement austère. Comment arriver à faire pour arriver à créer des émotions chez le lecteur? Il va faire une syntaxe particulière, la ponctuation est très importante chez lui, et il va essayer de... C'est pas tant même la signification du mot qui est importante, mais c'est l'image qu'il y a derrière le mot que je vais essayer d'utiliser pour que quand la personne me lise, elle comprenne ce que je veux dire derrière. Et donc, il a fait toute une recherche syntaxique, le L qui glisse comme un liquide, etc. Donc ça, c'est des...
Alors, il faut commencer par quoi? Puis ça sera le mot de la fin.
Mais je crois que ces deux ouvrages, La Horde du Contrevent et La Zone du Dehors, sont deux ouvrages qui sont complémentaires et très intéressants.
Moi, je voudrais juste...
Rapidement, citer... vous êtes en train de prendre sur Philippe.
Oui. Oh, allez-y.
J'aime beaucoup cette phrase de Damasio. J'écris pour la vie contre ses forces dévitalisantes qui l'édulcorent et l'adoucissent, lui enlevant son sel et son intérêt.
Moi, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit l'article, oui, quand on vous écoute... Mmh. Et quand on essaye de comprendre l'environnement mental, esthétique, de réflexion de ce bonhomme, c'est qu'il n'a rien de gauche, si ce n'est qu'on nous rebat les oreilles sur le fait qu'il est de gauche, il est de gauche. Donc moi, je pense qu'il est de gauche parce qu'il a besoin de vendre ses bouquins et qu'il faut, il peut pas sortir du, et il a raison, et il peut pas sortir du système. Mais tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on lit, alors évidemment, hein, de, les 5 minutes de connaissance plus les 2 pages de l'article, hein, voilà, je me demande vraiment en quoi ce monsieur est de gauche, d'extrême gauche, de gauche radicale.
Vous savez, on est là-dessus chez,
Si on en parle ici, c'est qu'on
considère qu'il n'est pas vraiment de gauche. Non,
parce que c'est bien aussi, dire que les types astucieux et épatants ne sont pas forcément de gauche.
Mais si je peux me permettre, il a été. Il ne connaissait pas Élément, il ne connaissait pas tout ce qui peut être cette mouvance intellectuelle. Il a été très surpris de voir que certains de ce qu'on appelle l'extrême droite, mais c'est plutôt une droite radicale, existaient et que ces bouquins pouvaient avoir des connivences avec ces thèmes-là. Il a été très surpris et loin de rejeter ça, et au contraire était intéressé et voudrait continuer des échanges pour arriver à comprendre ces interactions.
Il n'est pas à gauche.
Oui, mais
pour lui faire plaisir, puis dans Élément, on va dire qu'il a un tout petit peu de gauche, et puis peut-être Paul.
Mais si on en parle ici,
ça arrange tout le monde.
Moi, cher Philippe, si on en parle ici, c'est que c'est vrai qu'on considère qu'il n'est pas vraiment de gauche. Mais laissons-lui le choix. Hein. Il est pour la tradition, il est contre la société marchande et tout. Si il se dit de gauche. Voilà, donc on vous le conseille fortement. Merci Mathilde. Nous allons faire une légère pause et puis je pense qu'on on va rentrer l'armée française. Il y a plein de choses, je crois qu'on va
dans
faire
le dur de l'Europe, dans le dur de la droite.
On va aller dans le dur de la droite, mais on va faire juste une légère pause.
Ne vous en déplaise.
Et retrouver Philippe Christel. Troisième partie de ces chroniques de la vieille Europe. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Alors, il est là. Il va nous parler de l'actualité européenne. Il va surtout nous parler de ce fameux livre blanc de la défense vient juste d'arriver. Alors, Philippe, j'ai quasiment pas préparé cette partie-là parce que je savais que vous alliez nous expliquer ce qu'il y avait dans ce livre blanc. J'ai eu juste cette phrase que j'ai trouvée chez Michel Goya, que nous avions reçue 2 fois, qui, avec un peu d'ironie, explique le livre blanc en disant « Si j'ai bien compris les 2 derniers livres blancs de la Défense, plus le budget est constant et plus les effectifs diminuent. » C'est un peu ça, Philippe ?
C'est un petit peu ça. On ne peut pas lui donner tort, d'abord parce que je n'oserais pas lui donner tort, en principe. Deuxièmement, parce que effectivement, l'effort, grosso modo, est articulé de la manière suivante. On essaye de ne pas toucher aux équipements, mais il va falloir faire avec moins de personnel. Il est amusant, d'ailleurs, de voir que, heureusement, que le gouvernement socialiste, mais il en va de même du gouvernement précédent, heureusement... qu'ils n'agissent pas sur ces suppressions d'emplois comme M. Montebourg a réagi quand il a fallu décider un plan social de 8000 personnes chez PSA. Là, on va tranquillement sortir 24 000 personnes supplémentaires et bien évidemment, comme d'habitude, c'est les militaires qui trinquent et les militaires, vous le savez, ça ne s'exprime pas et c'est tant mieux.
Il n'y a pas de syndicat.
Alors, livre blanc, faire un petit peu de pédagogie, il y a deux grands éléments, si vous voulez, qui cadrent la prospective qu'on peut donner à un dispositif de défense en France, en tout cas. Il y a un livre blanc qui, on va dire, est une sorte de copie donnant des grandes orientations stratégiques. Et puis ce livre blanc se traduira dans ce qu'on appelle une LPM, c'est une loi de programmation militaire qui, par définition, sur des sujets comme ceci, parce qu'il nécessite une vision sur plusieurs années et des engagements budgétaires sur plusieurs années, eh bien donc engage la programmation budgétaire dans un certain nombre de
direction. Et donc, bien évidemment, la France étant totalement ruinée, il était évident que la défense participa à ce mouvement de prétendu redressement de nos comptes publics, ou en tout cas de stopper les défenses. Et donc, le livre blanc a donné un certain nombre de pistes. Je ne reviendrai pas sur le fait que la partie a été plutôt bien jouée par les scénarios proches de l'hôtel de Brienne qui ont fait circuler un fameux scénario dont on a beaucoup parlé qui s'appelait le scénario Z. Le scénario Z, en gros, c'est on coupe tout, on arrête tout, on fait plus rien. Enfin, on se met à peu près au niveau militaire du Burkina Faso et du Liechtenstein et au moins, comme ça, tout le monde est effrayé, dit bah, c'est pas possible. Donc, on a tombé sur un scénario Y. Lequel scénario Y va désespérer donc le colonel Goya, mais effectivement, considère qu'on va à peu près maintenir le montant des dépenses d'équipement et d'investissement, mais on va contenir le personnel. Alors voyez-vous, toujours pareil, c'est quand vous faites une cure d'amaigrissement, est-ce que vous amaigrissez du gras ou est-ce que vous amaigrissez du muscle ? Je crains quand même que depuis un certain temps, on amaigrisse du muscle, plutôt que du gras. Je vais essayer de donner en tout cas quelques... Et puis, la vraie question, c'est de se dire, évidemment, une fois de plus, c'est un effort de défense qui diminue. Une fois de plus, c'est une menace sur notre capacité de projection. Une fois de plus, ce sont des questions sur est-ce qu'on restera souverain sur un certain nombre de... Une fois de plus, c'est la question de rendre la France dans le monde peut-elle être à la hauteur de son siège au Conseil de sécurité. Certes, tout ça est un déclassement, tout ça ne va pas dans le bon sens. Nous souhaiterions tous que ce soit d'autres dépenses dans lesquelles on sabre allègrement. Mais qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver positif, malgré tout, dans ce champ de ruines budgétaires qu'est le livre qu'annonce le livre blanc ? J'en ai trouvé deux. J'essaierai de vous les faire partager tout à l'heure. Et peut-être même trois, si on est vraiment optimiste. Et il ne faut pas se l'interdire. Bon, très rapidement, le livre blanc, il est structuré en différentes parties. La première partie qui est celle des menaces. Donc le livre blanc distingue trois types de menaces. Des menaces dites de la force, c'est-à-dire un État en conflit potentiel avec la France, typiquement la Chine. Ou des États proliférants, par exemple. Deuxièmement, c'est les risques de la faiblesse. Donc là, c'est l'inverse. C'est ce qu'on a connu au Mali. C'est un État qui tomberait en faillite ou qui serait submergé par d'autres agressions et qui serait dans une zone d'influence pour nous telle que nous aurions besoin d'aller à son secours. Et puis, c'est les risques de la mondialisation. Les risques de la mondialisation, c'est principalement les atteintes aux flux de marchandises, le terrorisme et le cyberespace. Donc voilà les trois menaces sur lesquelles le livre blanc propose des réponses en termes de défense nationale française. Il y a une deuxième réflexion dans le livre blanc qui porte sur les zones d'intérêt français. Bien évidemment, on n'a quand même pas oublié ça, la zone d'intérêt numéro un, c'est le territoire national, vous en êtes rassurés. Ce qui est intéressant, c'est que le livre blanc annonce clairement la couleur sur le fait que nous allons considérer comme nous mettant en capacité de réaction sur, bien évidemment, les fragilités du voisinage oriental européen, hein, avec très explicitement la mention de la faiblesse des États issus du bloc soviétique et la nécessité de veiller la politique russe. Et de l'autre côté, on insiste bien évidemment sur le Maghreb, la Méditerranée orientale et le Sahel, qui restent les zones prioritaires où la France veut être capable d'impliquer d'ailleurs des partenaires, veut être chef de file d'une intervention. Sur l'Afrique d'ailleurs, a priori, au moins quatre de nos bases qui maintenant s'appellent des pôles de coopération. Avant, on avait des bases de militaires, maintenant on a des bases militaires, maintenant ça s'appelle des pôles de coopération. Au moins quatre d'entre elles vont rester des points d'appui forts. Ce qui est intéressant, c'est que par définition et par exclusion du reste, quid de l'Asie ? Alors on dit que la France n'en fera pas une terre d'engagement militaire, mais assumera ses responsabilités de puissance maritime. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons le deuxième domaine maritime au monde du fait de la multiplicité de nos possessions un peu partout, notamment dans le Pacifique. Là, notre capacité à tenir notre rang sont amoindries, ce qui n'est pas sans inquiétude quand on voit les tendances centripètes, notamment que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, et le fait que nos voisins de l'Alliance Atlantique, que ce soit les Australiens, les Néo-Zélandais ou les Américains, aimeraient bien nous déloger de là. Bref, ce qui est intéressant, c'est que le livre blanc assume, mine de rien, de positionner la France sur une posture plutôt régionale. Ce qui est en soi un retrécissement de notre champ d'intervention, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple technique, pas politique, demain, avec ce que le livre blanc écrit, nous n'irons plus en Afghanistan. Hein,
ouais, c'est-à-dire que de la ce raison technique,
je parle de la raison.
On n'aura voilà, plus les moyens.
Voilà. On n'aura plus les moyens.
Le Mali, on
le
peut.
Mali, le Mali, oui.
Oui.
L'Afghanistan, non. Le Mali, oui. L'Afghanistan. Bon, bref.
Ouais, c'est un beau.
Donc sur l'effort de défense. Bon, on va pas rentrer dans la comptabilité, mais grosso modo, on va effectivement passer d'un 1,6 à 1,3 du PIB. De budget, de pourcentage du PIB consacré à l'effort de défense, par comparaison, hein, la norme OTAN, c'est 2%. Donc on est clairement en dessous. Alors, il y a peu de moyens qui sortent renforcés. Les principaux moyens qui vont être renforcés, bah, c'est ceux qui permettent d'en faire un maximum avec le minimum, c'est-à-dire il y en a deux, c'est les moyens du renseignement, renseignement classique, mais également renseignements spatiaux. Et les forces spéciales, vous savez, c'est les forces spéciales, c'est les 10 types que vous envoyez et qui vous démontent 4 régiments de la garde républicaine, du dictateur local. Bon, c'est...
En gros, si on prend par exemple l'affaire du Mali, on s'était aperçu que par exemple le renseignement, on était un peu de limite, il n'y avait pas de drones, etc. Est-ce que ça avait quelque chose qui va être renforcé?
Tant le renseignement intérieur qu'extérieur va être considérablement renforcé. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que, enfin ce qui est drôle, je ne sais pas, ce qui est cocasse en tout cas, c'est que dans la commission d'écriture de livre blanc, on lui avait reproché beaucoup le fait qu'aucun expert de haut niveau du renseignement n'y figurait. Contrairement au coup d'avant, livre blanc de l'époque Sarkozy, qui était truffé d'experts du renseignement, mais qui n'avait pas décidé d'acheter de drone. Le problème, c'est comme on n'en développe pas, on va en acheter aux Américains. Pas enclenché de véritables efforts de cyberguerre. Hein. On pourrait reboucler ça. Il faudrait réinterroger notre invité
dernière fois,
hein, qui était passionnant sur le sujet. Et en revanche, c'est plus symbolique, donc sur l'effort de défense, on va donc supprimer 24 000 emplois d'ici à 2009. Il en reste 10 000, hein, c'est-à-dire il en reste 10 000 qui n'ont pas encore été supprimés et qui étaient prévus sur la période 2009-2015, puisque les deux livres blancs, alternance politique oblige, se chevauchent. Ce qui est intéressant, c'est que le statut général des militaires va être revu, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive plus à faire partir des militaires exclusivement par volontariat et par départ en pension.
Je suis étonné.
Alors, si ça pouvait nous amener tranquillement sur une revue du statut des fonctionnaires aux annales jusqu'au plus haut des cieux, c'est ce que la Grèce vient de voter. Bon, je pense que malheureusement, on n'en est pas encore là.
Non.
Alors, sur les modèles d'armée, c'est plutôt l'armée de terre qui va...
Comme modèle de gestion, la Grèce... On se pose pas en modèle.
Ah, mais on est plus dans la gestion, là.
Oui, je sais. C'est pour ça que dire que 20 000 fonctionnaires débarqués comme ça... Enfin bon, je suis pas sûr que ce soit le modèle absolu pour la France.
Il faudrait ramener 20 000 Grecs, rapporter à leur population, à voir combien de fonctionnaires chez nous. Je pense que ça mérite quand même d'être calculé.
Ça ferait beaucoup,
ouais. C'est la question. Hein? Mais on fera ça pour la prochaine fois.
Bon. Ouais. En spécial Grèce.
Ouais. Mais quand vous ferez un numéro dans Éléments sur les classes populaires, vous parlez des fonctionnaires comme ça. Bien, donc, et puis sur les opérations, c'est ça qu'il faut regarder, c'est que notre capacité de projection, qui était grosso modo de 30 000 hommes aujourd'hui, va être de 15 000 hommes. L'idée, c'est d'être capable de faire trois opérations significatives de front. Hein, aujourd'hui, on a à la fois le Liban. On n'en parle pas beaucoup, mais on a beaucoup de monde positionné au Liban. On a nos troupes dans le Golfe Persique, à la fois sur la partie anti-piraterie puis la base d'Abu Dhabi. Et puis, on a bien évidemment le Mali. L'idée, c'est de continuer à faire trois opérations de front. Là, tout le monde se dit comment on va y arriver, on voit pas bien, mais c'est en tout cas la thèse. Là où il y a aussi quelque chose qui peut à la fois être très positif, mais également très négatif, c'est la conséquence sur le matériel. C'est-à-dire que tout le monde avait dit, le livre blanc, ça va être les populations, ça va être les soldats, les hommes, mais quid du matériel? Et d'ailleurs, le matériel, c'est quid de nos industries de défense. Vous savez que la France, je ne vais pas y revenir, nos auditeurs le savent bien, est quand même un État qui est particulièrement bien doté en technologie de pointe dans ces industries de défense qui sont autant de technologies de souveraineté. Le texte du livre blanc, bon, un peu de cirage sur les pompes des industriels, met en avant comme jamais le rôle fondamental des industries de défense. On est quand même sous une majorité socialiste. D'ailleurs, industrie, il y a aussi un peu d'emploi. Il y a même quelques ouvriers, des vrais. La décision intéressante, c'est que aucun programme n'est passé à la trappe. Donc tous les programmes engagés ou en voie d'engagement sont maintenus. Ce qui change, c'est les cibles. Bien évidemment, on ne va plus racheter 18 frégates, on en aura 15. Plus 286 rafales, c'est devant 225, etc., etc. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça permet d'éviter de solder et passer par pertes et profits des entreprises qui sont des fleurons industriels dans leur région et qui sont aussi des gisements de technologies, de R&D que le monde entier nous envie. L'inconvénient, c'est que, outre le fait que ça traduise, semble-t-il, une propension à ne jamais choisir, qui semble assez bien portée dans les cercles élyséens, c'est que, vous connaissez comme moi la limite du saupoudrage, c'est que répartir la pénurie pour donner un petit peu à tout le monde, c'est à peu près être certain de n'avoir aucun champion national. C'est peut-être le cas, la capacité en étalant des commandes et des programmes d'exploser la trésorerie des entreprises, et c'est peut-être un risque qui est au final beaucoup plus de morts que de survivants dans ces industries de défense. Les deux éléments qui me paraissent intéressants, c'est que, mine de rien, cette contrainte de nos ambitions et cette contrainte de nos moyens, qui est cohérente avec ce que font d'autres pays européens, semble plus ou moins enterrer une vision un peu romantique et grotesque de l'Europe de la défense. C'est-à-dire qu'à force de plus avoir rien à mettre en commun, l'idée d'Europe de la défense risque quand même de reculer. Et il y a... Dans le choix des matériels, il y a au moins sur deux technologies de missiles, il y a la volonté claire d'avancer dans le partenariat technologique et militaire franco-britannique. Et donc, l'espèce de gloubi-bolga de type Eurocorps va probablement être rangé au rayon des antiquités où il faudra trouver le dernier planton de l'Eurocorps pour mettre ça dans le musée du président Chirac. Et puis, ça ira bien, il faudra le relever tous les 24 heures. Le deuxième sujet, c'est que l'autre organisation qui a du plomb dans l'aile, qui n'en avait pas besoin, mais pour laquelle ça confirme qu'elle a du plomb dans l'aile, c'est l'OTAN. L'OTAN accroît sa crise d'identité, et ça nous intéresse, parce que ça fait longtemps qu'on veut se débarrasser de ce machin-là, comme disait mon général. Aujourd'hui, l'OTAN tourne quasiment sur lui-même, des réunions ministérielles sans agenda, des sommets sans décision, on devait faire un super sommet, Barack Obama dit « je viendrai peut-être pas », du coup on a tout annulé, de toute façon on n'a rien à se dire. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, la cible c'est 2% du PIB, personne en Europe n'atteint ce chiffre-là. Il faut se rendre compte que depuis 2001, le continent européen a consacré 15% de moins à sa défense, donc on a une décrue globale, complète et chez tout le monde. La dernière opération qu'essaye de la Libye a montré la divergence des uns et des autres. Les Danois ont manqué de munitions. Les avions de surveillance ont été paralysés parce que ceux qui font la maintenance des AWACS dans l'OTAN, c'est les Allemands, mais les Allemands avaient dit « nous, on n'y va pas ». Enfin bref. Donc, bien évidemment, ne rêvons pas, c'est pas de nous que viendra le bouleversement, ce sera probablement soit des Américains, du Congrès américain qui pourraient considérer que finalement ce truc-là, pareil, au rayon des antiquités. Mais en tout cas, il y a de la déprime dans l'OTAN et ça ne peut que nous faire plaisir.
Donc vous ne confirmez pas ce qu'on a pu entendre chez certains souverainistes, c'est que ce livre blanc est un livre blanc qui a été entièrement fait pour faire plaisir à l'OTAN et qui fait que la France n'est plus du tout indépendante vis-à-vis du reste de sa défense.
Non, je ne crois pas. Ce qui est évident, ce qui fait évidemment plaisir à l'OTAN, c'est que la France ne reparte pas dans l'autre sens, dans l'inflexion de son pourcentage de PIB, et que la France ne dise pas, finalement, je vais faire 3% de mon PIB, je vais acquérir l'ensemble des leviers de technologie de souveraineté sur le renseignement, sur le ravitaillement, sur les drones, sur le spatial, sur le cyber, et puis donc, j'ai plus besoin de personne. Celui qui rêvait à ça, il a raison de rêver, mais malgré tout, je crains que ce qui sort du livre blanc, sous réserve que la loi de programmation militaire le confirme, et sous réserve qu'un certain nombre de recettes extra-budgétaires prévues pour financer les investissements militaires, comme par exemple les ventes de terrain, les ventes de casernes, qui sont prévues comme devant être rétrocédées aux armées, mais que Bercy cherchera à rapter à la première occasion. Donc sous réserve que chaque année, les ministres de la Défense gagnent les arbitrages. Bon, aujourd'hui, entre Le Drian et Cahuzac devenu Cazeneuve, et surtout entre Le Drian et Cazeneuve, qui sont l'un l'élu de Cherbourg, l'autre l'élu de Lorient, si vous voulez, ça fonctionne.
Ça devrait aller.
C'est la séquence, comme on dit dans les temps médiatiques, n'est pas la plus hostile aux militaires, n'est pas la plus hostile aux marins, n'est pas la plus hostile à DCNS. Bon, le jour où on aura Montebourg au budget et Harlem Désir à la défense, si vous voulez,
on sait jamais. Faites attention, Philippe. On sait jamais.
Non, il y a un autre truc que je voulais vous raconter parce que là, l'heure tourne, c'est que vous avez suivi comme moi, l'attentat de Boston. Donc ok, on a trouvé les suspects. Les suspects sont tchétchènes. Puis alors, on apprend quand même qu'il y a environ une petite demi-douzaine d'années, le FSB russe, qui fait son travail, est quand même allé voir ses camarades américains, parce que nous, les Russes, on pense qu'on est ensemble en guerre contre le terrorisme.
C'est ce qui était prévu.
C'est ce qui était prévu. Donc nous, on y va, on dit, les gars, écoutez, nous, on pense, là, il y a les gars, là, faut s'en occuper, là. Ils sont pas clairs, les gars. Et là, on a dû dire, ouais, les Russes, non, mais vous cherchez à nous enfumer, machin, etc. Moyennant quoi, ce qui est arrivé arriva. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que, premièrement, il faut faire confiance aux Russes. Et deuxièmement, c'est que si on n'était pas tous dans les systèmes de sécurité américains, politiques comme diplomatiques, comme militaires, si on n'avait pas... tant qu'on se souvient qu'on a considérablement soutenu, armé, financé les rebelles tchétchènes, qui sont parmi les plus cruels du monde dans cette zone du Caucase russe, si on les avait pas soutenus, tout simplement, y compris au nom de l'islamisme le plus radical, juste pour... embêter tonton Ivan, on aurait peut-être été un petit peu plus distancié sur le terrorisme tchétchène. Et donc je trouve dommage, une fois de plus, que trois pauvres victimes, sans compter les blessés qui faisaient du jogging, soient des victimes de l'aveuglement et de l'impéritie américaine. Et impéritie américaine qui s'est largement prolongée, puisque nous avons eu la chance, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais dernièrement, le Premier ministre de Géorgie, vous savez toute l'affection que j'ai pour ce pays, est venu s'exprimer devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg. Alors, le Premier ministre, Ivanishvili, c'est celui qui a été élu contre le tyran d'Opéret, Saakashvili, totalement de fameuse révolution de la rose, soutenue par les Américains, provocateur. Exactement. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de découvrir? C'est qu'en fait, on vient de se rendre compte que l'ensemble de l'État géorgien à l'époque de Saakashvili avait accueilli, formé, financé des combattants tchétchènes. Et aujourd'hui, on s'étonne que les Russes soient allés corriger cette base arrière du terrorisme. Voilà, c'est le petit mécano américain s'effondre parfois et on apprend des trucs. C'est quand même dommage pour les habitants de Boston.
Il vous reste à peu près 4 minutes.
Alors, 4 minutes, je voulais simplement vous signaler une visite historique, qui est la visite du Premier ministre japonais à Moscou. C'est la première visite en 10 ans qui a été marquée par un rapprochement politique et énergétique très fort avec Poutine. Donc on reparle des Kourils, qui sont ce territoire qui a été annexé de manière assez gaillarde par Staline dans les 3 derniers jours de la Seconde Guerre mondiale et après Hiroshima et Nagasaki. C'était pas très
sacré, Joseph.
Mais ça valait le coup. Ça valait le coup parce que les Kourils, si vous voulez, si vous regardez votre map monde, ce sont les îles qui offrent aux forces navales russes un aspect libre à l'océan Pacifique. Ça vaut quand même le coup. Suite à ce contentieux, la Russie et le Japon n'ont toujours pas signé un traité de paix, donc c'est une solution anormale. Sauf que depuis Fukushima, le Japon se tourne maintenant largement plus qu'avant vers la Russie pour augmenter sa consommation de gaz. Il y a un gros projet sur une usine de production de gaz liquéfié, Vladivostok, pour 2018. Et donc, il y a rapprochement, il y a réchauffement. C'est intéressant parce que quand on connaît les tensions qui existent dans la zone de cette mer de de Chine avec les prétentions toujours plus fortes, toujours plus insolentes parfois de la Chine et l'incapacité que l'on pressent de des États-Unis y faire face et le risque pour le Japon d'être lâché par les États-Unis, c'est intéressant de voir cette amorce japonaise. Et puis, c'est d'autant plus intéressant que le Japon vient de fêter les 50 ans de la fin de l'occupation américaine au Japon. Ça a été l'occasion pour le Premier ministre japonais, qui est quand même soutenu par 70% de sa population, ça lui fait un autre point commun avec Poutine, de revenir largement sur ce fameux accord totalement inique, la déclaration Murayama de 95, qui en gros c'était la déclaration de repentance du Japon sur à peu près tout. Le Premier ministre a rendu hommage aux ministres, aux parlementaires qui sont allés au sanctuaire de Yasukuni. Bref, il y a là aussi un regain nationaliste, un regain de fierté, d'indépendance et d'identité qui me semble intéressant d'étudier comme tous les autres éléments de la région.
Et puis enfin, dernier élément,
parce qu'on a parlé du budget, donc Cahuzac, tout ça, et si vous voulez, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes, c'est que les diamantaires d'Anvers sont invités à régulariser leur compte secret suisse, c'est dans Le Monde, parce que si vous voulez, c'est un dégât collatéral de toute cette affaire HSBC, machin, etc. On a trouvé 500 bons hommes qui auraient des activités de blanchiment et de compte secret suisse. Alors le fisc belge veut s'en occuper, mais si vous voulez, diamantaires d'Anvers, ils pèsent 42 milliards d'euros, c'est ça probablement qui doit peser sur leur influence.
On a le droit d'y toucher, ce genre.
Bah, écoutez,
42 milliards
d'euros. Chiffre d'affaires de l'activité diamantaire anversoise. Non, ça rigole pas. Bon. Et alors, figurez-vous, donc moi je pense que c'est ça qui pèse lourd, parce qu'on a interrogé le directeur de la lutte anti-fraude et anti-blanchiment. Il s'appelle Jean-Claude Delepierre. Il est directeur de la cellule de traitement des informations financières. Et alors, le journal L'Écho l'interroge, et ce gars-là, il dit « Je confirme les pressions exercées sur nous par les diamantaires, et je juge malheureusement crédibles les propos sur leur influence. » Bon, bah écoutez, en tout cas, je ne sais pas s'ils finiront par payer, mais ils ont de la chance, ils ont de l'influence. C'est ça, l'industrie du bijou, c'est ça la chance.
Merci, mon cher Philippe. Voilà, on finit. On ne pourra pas parler de Derrick. Je ne sais pas pourquoi vous vouliez parler de Derrick, mais on en parlera peut-être le mois prochain. On n'a pas le temps. Je sais que vous êtes, vous vouliez parler un peu culture. Mais nous n'avons pas le temps, mon cher Philippe. Donc, on se retrouvera dans 4 semaines. Vous pouvez réécouter cette émission jeudi soir à la même heure ou sur le site de Radio Courtoisie ou sur le site de La Vie Europe. Bonne soirée à tous.